La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
On accueille Johan maintenant au 39-21. Bonsoir Johan.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Johan et quel âge avez-vous?
Alors moi je vous appelle du Val d'Oise dans une petite ville qui s'appelle Tavernier.
Oui.
Et j'ai 32 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Johan?
Alors moi si je viens parler avec vous aujourd'hui, déjà je voulais vous remercier sincèrement de m'accueillir dans votre émission.
Je vous en prie.
Je tenais à préciser, je suis très ému de vous avoir au téléphone. En fait, je vous appelle aujourd'hui pour vous parler d'un combat régulier que je mène chaque jour contre une maladie. Une maladie qui est très peu connue, très peu reconnue aussi, j'allais dire, et qui se prénomme la fibromyalgie.
D'accord.
Donc alors moi, si vous voulez...
La fibromyalgie, oui. Alors j'en ai déjà entendu parler, mais vous pouvez me repréciser parce que elle touche essentiellement les femmes, normalement, non? Ou je me trompe?
Alors la fibromyalgie, en fait, elle est un peu vaste. Disons qu'elle touche environ, en moyenne, 5% de la population mondiale.
Oui.
5% de la population française. En grosse majorité des femmes, mais aussi quelques hommes. Et moi, j'en suis atteint depuis l'année 2016. En réalité, j'ai été diagnostiqué, j'ai commencé à avoir les symptômes en 2016, disons, et j'ai été diagnostiqué 3 ans après.
D'accord. Vous deviez en souffrir depuis plus longtemps que ça, en plus, non, je suppose?
Alors, non, ça, alors, c'est le problème de cette pathologie, c'est que c'est une pathologie qui arrive du jour au lendemain, sans explication logique, en fait, forcément. Il y a une vraie méconnaissance, en fait, sur cette pathologie. Beaucoup vont la décréter comme quoi ça peut venir d'un traumatisme, d'un accident ou des choses comme ça. Alors oui, dans des cas, c'est vrai. Sauf qu'il y a des moments où, en fait, on ne sait pas d'où est-ce qu'elle peut provenir, d'où elle est née, en fait. Moi, j'avais une vie formidable. J'étais aide-soignant, moi, pour vous faire un petit topo, entre guillemets.
Oui.
J'étais marié, j'étais papa d'une petite fille, j'allais être papa d'une deuxième petite fille. Et un jour, je me suis rendu à mon travail comme d'habitude, d'aide-soignant, je faisais mes toilettes. Et en fait, je me suis retrouvé d'un seul coup dans l'incapacité de mettre un patient dans son fauteuil.
Vous n'aviez
comme
plus
si
de force.
D'un seul coup, toutes mes forces m'ont abandonné. Mais vraiment toutes mes forces, sans comprendre. Hein. J'ai demandé à mes collègues ensuite si elles pouvaient faire cela pour moi, si elles pouvaient m'aider. Et au final, elles ont réussi à le faire. Sans problème. Elles ont réussi à le mettre au fauteuil sans problème. Moi, j'ai été un peu perturbé par cette situation. Je ne comprenais pas. Bon, au début, j'ai prétexté un coup de fatigue. On se dit, bon, c'est normal. On a un métier qui est rude, qui demande beaucoup de physique. Surtout que je travaillais en milieu gériatrique, on va dire, de la médecine gériatrique. Donc, j'ai prétexté ça pour la fatigue. Mais en fait, ouais. La fatigue a continué à s'installer.
Mm-hmm.
Les douleurs sont apparues avec le temps. J'ai dû voir la médecine du travail de mon établissement. Sans examen notable ou quoi que ce soit, m'a déclaré inapte à ma fonction et m'a dit « Monsieur, vous avez une maladie qui est en train de se déclarer, c'est grave et ça va mettre du temps à trouver. » D'accord. Donc on sort pas vainqueur d'un tel rendez-vous avec la médecine du travail, parce que non seulement je venais de perdre le métier pour lequel j'avais voué ma vie, parce que je crois qu'on ne se lance pas dans un métier de soignant comme celui-là sans raison. Et j'ai perdu d'un seul coup une santé qui m'était chère, sans comprendre pourquoi. Donc, et en fait, si vous voulez, donc à la suite de ça, en fait, c'est suivi 2 années de spirale infernale à laquelle on a recherché la pathologie. Moi, on a fait des recherches d'examen, on a découvert sur la prise de sang que j'avais une maladie auto-immune qui se déclarait. Donc, le problème des maladies auto-immunes, c'est qu'il faut les éliminer. Et le problème de la fibromyalgie, c'est celle qui arrive en dernier, parce que le problème, c'est qu'elle n'a aucun marqueur. Un diabète, on fait un dextro, on sait tout de suite qu'on est diabétique. Un cancer, on voit ça à travers un scanner, une ponction sous scan, plein d'examens, et au final, on détecte tout de suite le cancer. Nous, on n'a aucun marqueur. C'est le gros problème de cette maladie-là aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas... c'est un handicap qui n'est pas visible en soi, qui est totalement invisible et que beaucoup, et surtout beaucoup de médecins, considèrent comme être imaginaire.
Oui, oui, c'est souvent... On parle régulièrement de la fibromyalgie, en tout cas à des patients qui souffrent hein, de cela, comme quelque chose de totalement imaginaire. C'est bien là le problème, parce que elle est mal connue, hein, des médecins.
Bah, elle est mal connue. Alors moi pour suivre beaucoup de personnes maintenant, parce que voilà, maintenant je suis beaucoup de personnes qui sont atteintes de cette pathologie là, et donc beaucoup de femmes qui aussi également, en plus de cette pathologie là, souffrent d'endométriose. Donc endométriose qu'on connaît un peu plus à travers son nom, c'est une maladie en fait qui va non seulement nous apporter une souffrance qui est terriblement physique. Moi, pour résumer cette maladie, je dis toujours, j'ai l'impression de vivre dans le corps et dans l'esprit d'un homme de 90 ans. J'avais 26 ans quand je suis tombé malade. Hein. Donc au final, du jour au lendemain, je vous dis, tout allait bien. Et en fait, le problème, c'est que voilà, non seulement elle est peu connue, alors elle est reconnue par l'OMS, elle est très bien gérée au niveau du Canada, ça c'est une certitude, mais en France, on a beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés parce qu'en fait, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Au niveau de la reconnaissance, au niveau des sécurités sociales, les DMDPH, donc pour ceux qui ne connaissent pas les MDPH, c'est pour les maisons du handicap. Donc moi, je sais que moi, j'ai dû batailler, pour me faire reconnaître uniquement travailleur handicapé. Parce que je n'avais pas de canne, je n'avais pas de fauteuil roulant. Alors à ce moment-là, on m'a dit, mais vous n'avez pas de handicap, ça ne se voit pas. Mais je dis, mais vous savez, la majorité des handicaps sont invisibles. Je dis, moi, je m'en serais bien passé de ce handicap au final. Mais aujourd'hui, je viens vous voir parce que mon employeur m'a demandé de me faire reconnaître travailleur handicapé. Donc c'est pour ça que je viens vers vous. La plus grosse souffrance que nous avons, nous les fibromyalgiques, au-delà de notre souffrance physique, et j'allais dire morale, parce que voilà, quand on est malade, quelle que soit la maladie, j'écoutais votre auditrice qui parlait de sa maladie, la première qui est passée, on n'a pas choisi d'être malade. Et on souffre aujourd'hui des jugements qu'on a, qui peuvent venir de nos proches, qui peuvent venir de la part de médecins, de gens qui ne sont pas assez informés sur cette pathologie, qui ne la reconnaissent pas comme existante. Je vais vous montrer un exemple. Moi, au bout de 2 ans de bataille pour trouver un nom à cette pathologie, parce que quelquefois, je revenais du médecin, on m'a dit « Ah, bah c'est un cancer ». Ah, d'accord, ok. comment je vais annoncer ça à ma femme qui est enceinte à la maison? On m'a dit « C'est une sclérose en plaques ». D'accord. Bon, bah après, on va passer par quoi? Alors, on m'a dit une maladie de Parkinson. Je suis passé par toutes les pathologies au monde.
Vous a dit ça, oui. On s'appuyait sur des résultats d'analyse, ou c'était comme ça, au petit bonheur, la chance?
Au petit bonheur, la chance.
C'est très grave de diagnostiquer ça. Comme ça, sans éléments probants.
Et là, le pire, c'est que vous avez un soignant, enfin quelqu'un qui se considère toujours comme étant soignant au téléphone. Alors aujourd'hui, je suis secrétaire hospitalier, donc ça change plus. C'est à peu près la même chose, on va dire. Hein. On est quand même dans le milieu. On est face à un jugement perpétuel sur l'existence de notre pathologie. Aujourd'hui, on est obligé de se battre pour trouver un médecin qui y croit. C'est incroyable de dire ça aujourd'hui, hein, en France, au XXIe siècle, mais on est obligé de trouver des médecins, du personnel soignant qui croit dur comme fer pour se faire soigner et se faire suivre. Moi, après mon processus de recherche, parce que j'ai dû être classé, j'ai dû accepter de trouver, qu'on me donne le nom d'une pathologie enfin, je suis passé par un médecin conseil justement dans ma procédure de reclassement, et je suis arrivé tout fier en me disant, écoutez, au bout de 2 ans de bataille, on me donne autorisation de reprendre en tant que secrétaire. Bon, c'est pas ce que je voulais forcément, parce que voilà, mon métier c'était soignant, mais je vais avoir un travail, j'étais heureux comme tout, et je dis, on m'a enfin mis un nom sur une pathologie, c'est la fibromyalgie. Le médecin m'a regardé et m'a dit « Monsieur, vous êtes un menteur, vous êtes un hypocrite. Vos enfants peuvent avoir honte que vous soyez leur père. Et votre femme peut avoir honte que vous l'ayez menti pendant 2 ans. »
Qui vous a dit ça, un médecin?
Un médecin.
De la médecine du travail?
Non, des préfectures. Vous savez, quand on est dans une procédure de reclassement, on doit passer par un médecin conseil de la préfecture.
Oui, donc c'est quand même une institution administrative.
C'est ça. Et alors moi, j'ai eu droit. Alors moi j'ai eu droit à ça, personnellement. Je peux vous avouer que j'étais bien content que ma femme se trouve à l'extérieur à attendre dans la voiture pour venir me récupérer.
Comment vous expliquez l'attitude de ce médecin?
Bah, Pour poursuivre les gens qui ont la fibromyalgie et pour en être atteint moi-même, je crois que l'attitude de ces médecins, c'est qu'en fait, à partir du moment où ils ne savent pas, ils vont pas dire « je ne sais pas », ils vont pas montrer leur ignorance, ils vont pas savoir passer la main. Et je crois que c'est important dans la médecine ou quoi que ce soit, c'est quand on ne sait pas, il faut savoir passer la main à quelqu'un pour chercher. Je dis malheureusement, la fibromyalgie fait partie de ces pathologies, comme je disais, qui ne se voient pas. Par moment, je marche bien, par moment, je marche moins bien, par moment, j'ai des troubles cognitifs, comme quelqu'un de 90 ans. Une fois, j'ai dû chercher pendant 10 bonnes minutes quand même le prénom de mes filles. Tellement la douleur... tellement le cérébral faisait que ça ne marchait pas. Parce que la fibromyalgie, elle interagit sur différentes formes, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il y en a, ils vont avoir des problèmes digestifs, il y en a, ils vont avoir des problèmes au niveau d'insomnie. Moi, pour vous parler de mon cas, moi j'ai l'impression qu'en fait, c'est une maladie qui agit par effet de crise, un peu comme la sclérose en plaques, où vous avez des poussées et des moments de calme. Mais moi j'ai l'impression qu'on me plante un couteau dans le dos, qu'on me l'enfonce, qu'on me lacère la colonne vertébrale avec, qu'on m'écartèle les bras et les jambes, et je dois serrer les dents, me mettre en position fœtale et attendre que ça passe.
Oui, ouais, c'est terrible.
C'est une situation délicate pour n'importe quelle personne, mais c'est vrai que voilà, du fait que je marche, que je me mouvoie, et en plus, j'allais dire que je cache ma pathologie, parce que les gens me disent « mais regarde, tu souris, Johan ». Regarde, t'as l'air heureux, mais je dis, mais j'ai pas envie de vous montrer quelqu'un de malheureux tous les jours. J'ai pas envie de vous montrer quelqu'un de défaitiste. Je suis là aussi pour être souriant, même quand j'ai mal. Je serre les dents intérieurement. Mais voilà, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on est obligé de trouver un médecin qui y croit. Je suis allé voir des rhumatologues ou des rhumatologues, des neurologues, parce qu'on cherchait tout et n'importe quoi dans les plus grands hôpitaux de Paris. Et je me suis fait à moitié rembarrer en me disant, mais quand il n'y a rien à chercher, il faut arrêter de chercher. On m'a dit, c'est dans votre tête. Alors ça, c'est la phrase, c'est dans votre tête. Mais je dis, mais si c'était dans ma tête, au contraire, au moins, ce serait clair. Mais j'aimerais, au contraire, j'étais heureux. J'allais être papa pour la seconde fois. J'avais un métier pour lequel j'avais choisi de vouer ma vie. Et au final, je me le suis fait arracher. Je n'avais aucune raison que ça soit dans ma tête. Et c'est ce qu'on dit souvent, on dit, c'est psychologique. Mais toute douleur est psychologique, quoi qu'il arrive. Quand on a mal... on ne peut pas se sentir bien, même quand on a mal à la tête ou quoi que ce soit. Je veux dire, si on se prend un pied dans la table, forcément, le cerveau va tout de suite intégrer l'information « aïe, 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 j'ai mal ». Mais c'est ce que j'allais dire, c'est une maladie physique qui va atteindre le psychologique, et qui va atteindre le psychologique à cause de la douleur qu'elle provoque, parce que ce sont des douleurs insupportables, atroces, mais qui va provoquer aussi une douleur psychologique du fait de la non-reconnaissance qu'elle a soit vis-à-vis des médecins, des collègues, des proches ou de la famille, parfois dans des cas. Parce que moi, je sais que moi, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai mis beaucoup de temps à accepter d'en parler à mes proches, à ma famille, de leur parler de ma pathologie, de leur dire je suis malade, j'ai cette pathologie. Moi, au boulot, je ne savais pas quel nom leur donner. Je disais, alors vu que c'est une petite cousine, on va dire, de la sclérose en plaques, je la présentais comme ma sclérose en plaques. Parce qu'au final, quand je disais la fibromyalgie, même moi, en tant que soignant, j'avais exercé pendant 10 ans, je n'ai jamais entendu parler de cette pathologie avant d'en avoir été atteint. Moi-même et mes collègues qui sont autour de moi et qui travaillent à l'hôpital n'en ont entendu parler pour la première fois que quand moi, je suis arrivé dans mon état fibromyalgique. Mmh. Et à l'heure actuelle, voilà, j'allais dire, on est 5% de la population à être atteint par cette pathologie. Aujourd'hui, on a une forte inégalité. Une forte inégalité entre les régions, les départements. Je suis aberré. Vous voyez, moi, dans ma région, ils acceptent la MDPH. Moi, je ne demandais pas à ce qu'on me fasse un revenu complémentaire. Tant que je peux travailler, je travaille. Je demandais simplement à avoir cette protection de reconnaissance de travailleurs handicapés. Dans d'autres régions, la fibromyalgie n'existant pas pour eux, alors qu'elle est reconnue au niveau de l'OMS, il faut qu'ils mettent syndrome dépressif. Ça veut dire que même la sécurité sociale, les MDPH, les préfectures et tout ça, dans certains départements, nient l'existence de la fibromyalgie et disent pour que ça passe aujourd'hui, il faut que vous mettez syndrome dépressif. Mmh. Et c'est toute l'horreur de cette pathologie aux multiples visages, j'allais dire. Parce que voilà, on oublie souvent, alors on parle des handicaps en général, mais c'est vrai qu'on oublie souvent que la majorité des handicaps sont invisibles, ne se voient pas. Et la fibromyalgie en fait partie. C'est un combat de tous les jours. Et malheureusement, comme je disais à un médecin la dernière fois, j'ai dit, mais le problème, c'est que même les fibrosceptiques, ceux qui n'y croient pas, parce que c'est vraiment toute la nuance aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui y croient et qui n'y croient pas. C'est même pas, voilà, on peut même pas se baser, on se dire, mais regardez, c'est réel. Je leur ai dit, mais même à eux, un jour, ça pourrait leur arriver. C'est pas une maladie qui met du temps à s'installer, c'est une maladie qui arrive subitement du jour au lendemain et qui vous tombe dessus sans prévenir.
Voilà, vous avez réussi en fait à la faire constater, cette maladie. Oui. On a bien compris que c'est à travers, selon les régions qui sont équipées ou non de médecins qui connaissent ou non la fibromyalgie, que le sort de pas mal de patients qui en souffrent va se jouer. Et c'est bien malheureux, bien évidemment. Je crois que vous avez écrit un livre dans lequel vous racontez ce dont vous avez souffert et où vous essayez d'expliquer ce que vous connaissez de la fibromyalgie. Pourquoi vous avez écrit ce bouquin ?
Alors, je vous avouerai deux choses. J'en ai écrit deux, en fait. J'ai eu un... Il y a un moment, j'allais dire, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un papa, d'un mari ou d'un travailleur, je me suis retrouvé démuni face à cette pathologie. Au final, vous savez, à force que les gens, les médecins vous disent que c'est dans notre tête, finalement, les fibromyalgiques, au bout d'un moment, finissent par croire que c'est dans leur tête, et c'est terrible, ça. C'est qu'au final, le doute qui est instauré par certains finit par nous gagner nous-mêmes, hein, au bout d'un moment. Et j'ai eu besoin, à travers mon premier livre, de faire, j'allais dire, un mea culpa sur toute ma vie, que j'ai appelé d'ailleurs mon livre Conversation avec moi-même, que j'ai auto-édité moi-même, chez Je veux Book Édition, et dans lequel j'ai raconté mon parcours de vie, mon parcours d'enfant, d'adolescent, de soignant, de malade, maintenant. Et c'est cette phrase-là qui me vient tout de suite en tête, parce que voilà, je crois que ça serait pour résumer mon livre et ma situation. En fait, j'ai voulu savoir, je pars du principe que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et j'ai voulu chercher à travers l'histoire de Monsieur Tout-le-Monde, en fait. C'est une histoire qui peut être commune à moi, aux auditeurs ou même à vous. Il y a eu des épreuves dans la vie, il y a eu des choses belles, des choses bonnes, mais que voilà, il y a toujours un message d'espoir derrière. Et à la suite de cette sortie de roman, je me suis découvert une passion, que voilà, c'est écouter, ou bien une occupation supplémentaire, parce que voilà, je refuse d'être quelqu'un qui reste assis à attendre que le temps passe. J'ai édité un deuxième roman, cette fois-ci. Chez un éditeur, donc aux éditions Maya, qui s'appelle « Dis-moi, c'est quoi la fibromyalgie ?» Alors ce livre, je l'ai écrit en partenariat avec une amie très sincère à mon cœur qui s'appelle Marie Magère et qui me fait chaque jour les illustrations que je lui demande. Et je suis rentré d'ailleurs à cette édition grâce à Marie Lay, qui elle aussi est auteure et qui m'a permis d'aller plus loin, d'aller plus grand. Et en fait, j'ai écrit ce livre pour expliquer aux jeunes enfants c'est quoi la fibromyalgie. Donc c'est, on va dire, pardon, de 3 à 8 ans. C'est des livres pour 3 à 8 ans, imagés. Et en fait, moi, je vais vous expliquer, moi, je me suis retrouvé dans une situation difficile avec mes filles de leur expliquer la pathologie. On a beau être soignant, on a beau travailler dans le monde des maladies, on n'est pas moins des êtres humains à qui la maladie peut nous faire aller de l'autre côté de la barrière un jour ou l'autre. Et moi, dans ce processus de recherche, je n'ai pas pu expliquer à ma fille, qui était très jeune à ce moment-là, je ne sais pas, papa, je ne sais pas ce qu'il a, je n'allais pas lui revenir et dire, il pense que c'est un cancer. Je ne pouvais pas. Il fallait que j'ai quelque chose à lui donner, de la matière à lui donner, pour après savoir. Je ne pouvais pas lui dire non plus que tout allait bien, sans savoir exactement de quoi je souffrais. Voilà, il ne fallait pas que je devienne un menteur un jour ou l'autre. Et au final, comme tous les parents, un jour, on regarde la télé, on ne se rend pas compte que notre enfant est à côté. Et c'était l'époque où Johnny Hallyday nous a quittés. Et donc, tout le monde était en train de pleurer à la télé. Et forcément, ma fille, du haut de ses 4 ans et demi, m'a demandé « Mais papa, pourquoi les gens pleurent à la télé ?» Bah, je lui dis, bah, écoute, alors ne soyez pas choqués par le mot que je vais employer, mais nous, on apprend qu'il faut appeler un chat à l'hôpital. Donc je lui dis, écoute, bah, y a un chanteur qui est mort, un chanteur qui était très connu, qui était très aimé, et c'est pour ça que tout le monde est triste. Et là, ma fille m'a répondu du haut de ses 4 ans et demi, c'est ce qui va arriver à papa bientôt. Waouh, la claque. C'était la claque en tant que père. D'entendre sa fille de 4 ans et demi penser que son papa allait mourir, ça a été... La, j'allais dire, je suis encore jeune, j'ai 32 ans, mais ça a été la plus grande claque de toute ma vie. Mmh. Et au final, c'est pourquoi l'idée m'est venue d'écrire ce livre, pour expliquer aux jeunes enfants, parce qu'on explique à un ado, à un adulte, la maladie d'une certaine manière, mais on n'explique jamais aux jeunes enfants. Et je ne veux pas rentrer dans ce principe de mensonge. Et en fait, j'ai voulu faire un outil, j'allais dire, ludique pour les enfants et de travail pour les parents, pas pour apporter des solutions en soi, mais pour justement créer un déclic, un début de conversation. Moi, quand j'ai lu mon propre livre à ma fille, elle m'a fait « Ah, ça, ça parle de la maladie à papa ». Je dis bah, « C'est que j'ai atteint mon but ». Donc, j'ai créé cet outil de travail, en fait, pour les parents, pour qu'ils puissent avoir cette conversation avec leurs parents, pour aussi faire en soi qu'on se dise « Mais la fibromyalgie, elle existe ». Ce n'est pas un mensonge. Moi, je ne mens pas à ma fille de 4 ans et demi à l'époque. Donc, je ne mentirai pas aux autres enfants à qui je dédie ce roman. Et c'est pareil, ce livre-là, c'est pareil, a un troisième but. C'est que voilà, moi, je ne veux pas me faire de l'argent sur les pathologies ou quoi que ce soit. C'est tous les bénéfices de ce roman, et mon éditeur en est informé depuis le premier jour, ça ira aux associations pour les personnes qui luttent contre la fibromyalgie. Au même titre que là, je suis en train de préparer deux romans avec mon éditeur et avec mon illustratrice, car voilà, c'est dans le but maintenant de faire une édition pour parler de ces événements de la vie ou de ces pathologies qu'on ne parle pas, qu'on ne sait pas comment en parler aux enfants. Voilà, c'est là, je sais que là, je suis en train avec d'écrire en ce moment « Dis-moi, c'est quoi la maladie d'Alzheimer ?» ou « Dis-moi, pourquoi est-ce que le panier du chien est vide ?» Là, ils sont en cours de finition. C'est pour le but justement d'apporter de l'aide aux parents et du soutien aux enfants. Mais voilà, c'est l'argent que je vais récolter pour ces livres-là. Voilà, par exemple, pour la perte d'un animal, ça va aller pour les SPA et les chenilles. Pour l'Alzheimer, ça va être pour les familles qui luttent pour qu'il n'y ait plus de confort dans les maisons de retraite. Voilà, c'est ça mon but aujourd'hui, c'est de dire qu'il n'y a pas de tabou. On est au 21e siècle. Il ne faut plus qu'il y ait de tabou. Il faut qu'il y ait encore de la bienveillance entre nous. On a vécu tous des moments terribles avec le Covid ces derniers mois et même ces deux dernières années. J'en suis le premier à le reconnaître après avoir travaillé moi-même dans un service Covid pendant 2 ans. Il faut remettre devant nous la bienveillance.
La bienveillance, la communication. Il faut en tout cas parler, ne pas avoir peur de parler aux enfants et même aux plus grands. En tout cas, ce livre s'appelle, c'est aux éditions Maya, pardonnez-moi, Dis-moi, c'est quoi la fibromyalgie, et l'intégralité des bénéfices seront donc reversés aux associations luttant contre la fibromyalgie. Merci mille fois, Johan. Pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Et puis, j'espère que bon, ça va aller hein, maintenant que vous savez tout ça. Et puis surtout que ces écrits puissent renseigner et rassurer celles et ceux qui les liront.
Bah moi, en tout cas, je tenais sincèrement à vous remercier. Et je crois que je ne suis pas le seul aujourd'hui parmi toutes les personnes qui souffrent de fibromyalgie, car c'était très important pour eux. Ils m'en ont parlé ce soir et hier. C'était très important pour eux de pouvoir qu'on puisse en parler à travers votre chaîne pour expliquer notre combat, notre lutte acharnée, et pour que notre plus belle récompense, ça serait sa reconnaissance avant de guérir.
Et ça va venir à coup sûr, parce qu'on en entend de plus en plus parler, et que à travers vos écrits, c'est une goutte versée dans cet océan, mais c'est en versant toutes ces gouttes qu'on va y arriver.
On y arrivera un jour.
Merci mille fois, Johan.
Merci à vous.
Passez une belle soirée.
À vous aussi également.
Au revoir.
Au revoir.